Tout pour investir, la boîte à outils.
On ouvre la boîte à outils, on sort les outils pour vous donner les meilleurs conseils en termes de gestion de vos finances personnelles, de votre patrimoine, de votre capital au quotidien. Et nous sommes avec Thibaut Delahaye de Delahaye Capital. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Et on va parler de quelque chose d'important, qui est important de préparer tôt, sereinement, c'est la donation. La donation de son vivant, ça permet d'anticiper la transmission, d'éviter des problèmes infinis au moment d'un décès. Comment ça fonctionne concrètement? On va reprendre tout de A à Z pour bien voir les choses. On va tout reprendre de zéro. Qu'est-ce qu'on appelle exactement une donation de son vivant?
Alors, une donation de son vivant, c'est un acte par lequel un propriétaire d'un bien donne de façon gratuite, et ça c'est important, ce bien à une tierce personne. Cette donation doit se faire de façon irrévocable et doit réellement se dessaisir du bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de donation et de retenir, sinon cette donation n'est pas valable. Alors, toute personne peut donner, évidemment, à partir du moment où il est juridiquement capable. Un enfant mineur n'est pas juridiquement capable, donc il ne peut pas donner. Et on peut donner à qui on veut. Alors, de façon assez classique, on donne en général à ses enfants, à son conjoint, mais aussi on peut donner à un tiers.
D'accord.
Il y a un point qui est important, c'est qu'on peut donner à qui on veut ce que l'on veut, en prenant garde de ne pas attaquer la réserve héréditaire des enfants, puisque vous savez, en France, on est obligé de transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants. Donc on ne peut pas donner plus que ce qu'on appelle la quotité disponible.
C'est ça qui est important et à bien garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut donner à une tierce personne pour différentes raisons, mais il n'est pas question de léser pour autant ses héritiers naturels.
Absolument. Donc,
ça rentre en ligne de compte.
Absolument.
Alors, quelles sont les conditions vraiment indispensables pour qu'une donation soit juridiquement valable? Parce qu'une donation, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Bon, si les enfants ne sont pas contents, si une tierce personne réclame quelque chose, bon, il faut que tout ça soit bien baqué juridiquement. Et quels sont les paramètres vraiment précis pour que ce soit totalement irrévocable et clean?
Alors, évidemment, il faut que les deux parties soient consentantes, puisque celui qui va recevoir peut éventuellement ne pas être d'accord. Si vous lui donnez un bien ou un actif sur lequel il y a des dettes ou ce genre de choses, il pourrait dire, mais écoutez, moi, je n'ai pas envie de recevoir cet actif grévé d'obligations ou de dettes. Évidemment, il faut être capable, on en a parlé tout à l'heure, de donner. Encore une fois, un enfant mineur ne peut pas donner. Mmh. Il faut réellement avoir cette intention libérale. C'est-à-dire que pendant des années, des personnes donnaient des sommes d'argent à leurs enfants sans leur donner, et ça créait une créance de restitution. Aujourd'hui, c'est clairement encadré par la loi. Mm-hmm. Quand vous donnez une somme d'argent, par exemple, vous la donnez réellement. Et évidemment, en fonction du bien que vous allez donner, il y a certaines règles à respecter, et notamment faire appel à un notaire dans certains cas.
C'est dans quel cas précisément? Parce que je dirais comme ça, sans avoir forcément des connaissances juridiques poussées, je serais tenté de dire forcément, il faut passer devant un notaire pour une donation au dernier vivant. Non, pas forcément.
Pas forcément. De façon, les donations les plus courantes sont les donations de sommes d'argent. Mmh. Les donations de sommes d'argent, vous pouvez les faire tout simplement en renseignant un document CERFA et de l'enregistrer auprès du Trésor public.
D'accord.
Vous pouvez également donner des parts de sociétés, donc si elles ont une certaine forme, donc par exemple les sociétés anonymes. Alors ça peut être classiquement, vous avez un portefeuille boursier, vous souhaitez donner certains titres à vos enfants. Évidemment, ça permet de purger les plus-values et vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer auprès d'un notaire puisque vous pouvez de la même manière remplir ce document CERFA. Vous êtes titulaire de votre propre société. Si c'est une société anonyme, vous pouvez également la transmettre via ce document CERFA. En revanche, il y a deux choses qu'on ne peut pas donner via ce CERFA qu'il faut obligatoirement, les deux choses principales, enregistrer auprès d'un notaire. Mm-hmm. C'est un, de l'immobilier, évidemment. Mm-hmm. Ça, c'est le premier point. Et chose qu'ignore un certain nombre de personnes, c'est toutes les parts sociales. Les parts sociales, c'est quoi? C'est des parts de SARL. Donc, si vous avez votre entreprise est sous forme de SARL, vous ne pouvez donner que via un notaire.
Oui.
Ou les sociétés civiles.
D'accord.
Les sociétés civiles, c'est forcément enregistré auprès d'un notaire.
Bon, très bien. Il y a deux régimes de donation. Il y a la donation dite classique, ordinaire. Et il y a aussi la donation partage, dont on a beaucoup parlé, parce qu'il en était question aussi du côté des réflexions autour de la loi budgétaire 2026. C'est quoi la distinction entre les deux, donation partage et donation ordinaire?
Alors, une donation simple, comme son nom l'indique, c'est vous donner un bien, un actif à une personne, alors en général, encore une fois, un enfant. La donation partage, le principe est assez simple, c'est vous créez des lots de valeur équivalente et vous partagez ces lots à tous vos enfants. C'est une chose, on va dire, plus traditionnelle. Alors, à quoi ça sert ? Le point principal, c'est que du coup, vous donnez la même chose à chacun de vos enfants, mais surtout, ça permet de figer les valeurs. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une entreprise et un actif immobilier aujourd'hui qui ont la même valeur, vous pouvez dire, je vais donner la société à un enfant 1, mon actif immobilier à l'enfant 2. Puis pourquoi je donne la société à l'enfant 1? Parce que, par exemple, il y travaille, et donc ça va être son futur outil de travail, vous voulez qu'il le récupère. Et vous figez les valeurs, ce qui permet à, éventuellement, si l'enfant qui a travaillé dans cette entreprise l'a développé pendant 10 ans ou 15 ans, que celui qui a reçu l'immobilier ne vienne pas réclamer. Imaginons que ça s'est bien fonctionné, que l'entreprise ait fait x10, ouais. Il ne vienne pas réclamer celui qui a eu l'immobilier une quote-part de l'entreprise, ouais, parce qu'il serait devenu plus riche que l'autre. Et donc, mais ça, c'est important parce que ça permet, ouais, d'anticiper et éventuellement de régler des problèmes lors de la succession.
Mais c'est pas que c'est même, je dirais même, ça a vocation à devenir indispensable, justement pour éviter toute contestation. On sait que, bon, lorsqu'il est question d'héritage ou de succession, il y a toujours des bisbilles et toujours des sentiments de, peut-être pas d'injustice, mais on trouve que les choses sont pas forcément très claires. Là, pour le coup, c'est vraiment le truc le plus clair et le plus clean possible, encore une fois.
Absolument. Alors, ça évite tout problème juridique.
Ouais.
C'est une évidence, puisqu'on a figé, c'est incontestable. En revanche, ça n'empêche pas tout ressentiment, et ça, c'est l'affect, le psychologique. Et même si vous avez tout prévu, vous ne pouvez pas, évidemment, anticiper les réactions de certains de vos héritiers.
On est d'accord. La donation-partage, on parle aussi parfois de donation-partage transgénérationnelle. Alors, on se dit au jugé, bah oui, forcément, il est question de passer d'une génération à l'autre. Mais non, c'est quelque chose de spécifique.
Oui, alors c'est quelque chose de spécifique et qui est évidemment aujourd'hui de plus en plus important à mettre en place, puisqu'avec le vieillissement de la population, vous avez régulièrement, quand un parent disparaît, il a 80-90 ans, ses héritiers ont 70 ans. Ouais. L'héritage, au moment où il le reçoit, ça n'a pas forcément changé leur vie. Ouais. La donation partage transgénérationnelle permet en fait aux grands-parents de donner, par exemple, la nue propriété aux petits-enfants, de se garder l'usufruit pour l'instant de leur vivant.
D'accord.
Et au moment de leur décès, que l'usufruit se recrée sur la tête des parents, ce qui permet aux parents d'avoir des revenus complémentaires. Et évidemment, puisque vous avez fait une donation sur deux générations, c'est évidemment, fiscalement, c'est très optimum.
Effectivement, très intéressant. Bon, il nous reste quelques secondes. Si vous aviez des conseils à donner concernant cette donation de son vivant, bon, c'est vrai que, et en plus, c'est quelque chose qui peut parler personnellement, mais il ne faut pas hésiter à le faire tôt, pour que les choses soient claires depuis le début.
Vous avez totalement raison. Il n'est jamais trop tôt pour y penser et de les mettre en place. Mmh. Et évidemment, il faut se faire accompagner, soit par un notaire, soit par un conseiller en gestion de patrimoine.
Ouais, toujours faire confiance aux pros. Hein. Ça, évidemment. Merci infiniment.
Merci à vous.
De la Haye Capital. Cette boîte à outils, encore une fois, très concrète, claire, nette, précise. Vous pouvez la retrouver en replay, en podcast. C'est votre bibliothèque patrimoniale pour gérer au mieux vos petites affaires, vos finances personnelles. Et c'est toujours très utile. Merci infiniment, Thibaut Delahaye.